Gloire à Dieu, tout le monde va bien. Vous pouvez prendre vos Bibles. Alors, si vous n'avez pas de Bible physique ou d'une application Bible sur vos téléphones, ce que vous pouvez faire, c'est prendre Google et mettre simplement la référence que je vais donner et vous devriez trouver un site internet qui vous donne le verset biblique en question. Ou sinon, vous suivez avec votre voisin. Parfait. Prenez Osée chapitre 4 et verset 6. On va prendre la NBS. Ok, qui peut me dire ici quelles sont les sections qu'on trouve dans la Bible ? Il y a deux sections dans la Bible. Exactement, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ok ? Donc l'Ancien Testament, c'est la section de la Bible jusqu'à la naissance du Christ. Depuis la naissance du Christ, on appelle ça le Nouveau Testament. D'accord ? Donc il faut comprendre que quand on lit les Écritures, il y a toujours un contexte dans lequel elles ont été écrites, et dans lequel Dieu a transmis une information. Regardez ce qu'il est écrit. Il dit « Mon peuple périt », donc ça veut dire « meurt », parce qu'il n'a pas la connaissance. Et en fait, c'était une prophétie que Osée, c'est pour ça qu'on appelle ça Osée 4-6, donc il y a le chapitre 4, et dans le chapitre, il y a le verset 6. Et donc Osée était un prophète qui a donné une instruction au peuple d'Israël à l'époque. Il a dit, mon peuple, en parlant de Dieu, il a dit, du peuple de Dieu, il a dit, mon peuple meurt parce qu'il manque de la connaissance. Alors bien sûr, aujourd'hui, d'ailleurs si vous suivez, il va dire, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et bien sûr, ça ne nous concerne pas nous en tant qu'enfants de Dieu. Dieu ne nous rejette pas, amen. Dieu nous aime et il veut notre succès. Donc, derrière, ça veut dire quoi? Que cette prophétie n'a pas été écrite pour nous, mais on peut en tirer un enseignement. Vous avez un peu l'idée? On peut en tirer un enseignement, on peut en tirer quelque chose. Et quand on regarde dans cette prophétie, le prophète qui s'appelle Osée, qui a écrit ça plusieurs centaines d'années avant Jésus-Christ, il pointe quelque chose du doigt d'intéressant qui est une règle qui s'applique encore à nous aujourd'hui. Donc bien que la prophétie n'était pas adressée à nous, on en tire une conclusion quand même. Vous voyez un peu l'idée? Donc la Bible dit « Mon peuple meurt parce qu'il n'a pas de connaissance ». C'est quand même quelque chose qu'on y réfléchit. Vous savez, en Amérique, quand j'étais là-bas, il y avait des gens qui avaient un petit autocollant qu'ils mettaient sur la voiture qui disait en anglais « Ignorance is bliss ». Ça veut dire « L'ignorance est la beauté, l'ignorance est merveilleuse ». Dans le sens, ce qu'on ne sait pas ne va pas nous faire du mal. Vous voyez un peu l'idée? C'est-à-dire que si vous ne savez pas que le monde brûle, vous n'allez pas en souffrir. C'est ça qu'ils essaient de transmettre comme info. Et c'est faux, ça. Ce qu'on ne sait pas peut nous tuer. Ça me rappelle une petite histoire marrante. J'avais des amis qui étaient venus du Congo. Et bien que le papa et la maman voyageaient énormément, ils avaient un tout petit de 1 an qui marchait déjà. Vous vous rendez compte? Il était jeune. Hein, et pourtant, il marchait déjà. Il ne parlait pas trop. Et c'est la première fois qu'il était en Europe. Il était en Belgique. Et il avait neigé. Il n'avait jamais vu de neige de sa vie. Il a couru tout nu dans la neige. Il a hurlé de son poumon, le pauvre. Je pense que déjà en sortant, il s'est dit « Je me suis fait une très mauvaise idée ». Il s'est jeté dedans. Vous imaginez, mais c'est normal. C'est si doux, mais c'est une ignorance qui l'a conduit à faire ça. Parce que s'il savait que la neige allait être si froide, il ne se serait pas jeté dedans. Vous voyez un peu l'idée? En tout cas, pas tout nu, exactement. Et donc, l'ignorance aurait pu le tuer. Vous voyez un peu l'idée? C'est comme, je me rappelle, je ne sais pas, pour ceux qui étaient à l'école, on avait des gens qui venaient intervenir pour nous donner de la prévention. Vous vous rappelez? Prévention sur le jeu, prévention sur ci. Et ils avaient montré une vidéo. Très choquante, je trouve d'ailleurs, quand j'y pense maintenant, on avait genre 13 ans, ils nous montrent ça. C'est une vidéo d'une personne qui jouait sur les lignes électriques. Je ne sais pas si c'était en Suisse, mais des lignes ferroviaires, pas des lignes électriques. Et le gars, il s'amuse à toucher une ligne électrique ferroviaire, donc ce qui passe dessus là. Et le gars meurt électrocuté instantanément. Pourquoi est-ce qu'il est mort? Est-ce que c'est Dieu qui a voulu qu'il meure? Non. Est-ce que c'est les services ferroviaires qui ont voulu qu'il meure? Non. Est-ce que c'est même lui qui a voulu mourir? Selon la vidéo, il a plus l'air de vouloir rigoler. Donc non, je ne pense pas qu'il était sur le point de mettre fin à ses jours. Donc, même lui ne voulait pas mourir. Vous voyez un peu l'idée? Donc qu'est-ce qui l'a conduit à faire cette erreur pour mourir ensuite? L'ignorance. On est d'accord? Donc l'ignorance fait que nous pouvons... Alors là, il parle de mourir, mais ça marque aussi de mourir, par exemple, dans sa santé mentale. mourir dans sa santé, mourir dans ses finances, mourir dans tous les domaines de vie. Et le problème, c'est que quand on a un manque de connaissances sur un sujet, ça peut nous amener à la destruction dans ce domaine. Par exemple, une personne qui manque de connaissances, je vais prendre un cas extrême. Imaginons une personne qui ne se rend pas compte que de manger du fast-food tous les jours, c'est mauvais pour la santé. Imaginez une situation comme ça. Ça nous fait un peu rire, mais il y a des gens qui ne s'en rendent pas compte. Hein. En Amérique, il y en a beaucoup. Ils savent vite fait, mais ils sont pas au courant. Ils ne se rendent pas compte de l'impact que ça a sur leurs artères, sur leur cœur, sur leurs poumons, sur leur peau. N'est-ce pas? Et donc, il y a ces gens qui vont et qui détruisent leur vie par manque de connaissances. Ils détruisent leur santé. C'était comme à l'époque quand les cigarettes étaient sorties pour la première fois. Même les docteurs recommandaient des marques de cigarettes. Vous savez ça? Ouais, c'est vrai. Dans les années 60, je crois, n'est-ce pas? 50-60. Un peu avant, ok. Il semblait que c'était après la Deuxième Guerre mondiale. Mais peu importe. Donc, vous voyez, il y avait des gens, des docteurs qui sont censés prendre soin de la santé, eux-mêmes étaient ignorants et ont poussé des gens à consommer certaines cigarettes en pensant que ça allait donner une forme de santé ou de vigueur. Pardon. Et ça a conduit à la mort de littéralement des dizaines de milliers de gens. Parce que cette ignorance dans la population a fait que les gens ne marchaient pas dans ce qui était vrai. Vous voyez un peu l'idée? Tout le monde suit jusqu'ici? Donc Dieu nous donne ce concept très intéressant où on doit avoir de la connaissance pour vivre ce que Dieu a pour nous. Je sais qu'on peut avoir cette idée que Dieu contrôle tout, que tout ce qui arrive, c'est Dieu qui est derrière. Et ça, c'est faux, parce que sinon Dieu, vous voyez, quand le prophète il dit « mon peuple meurt par manque de connaissance », c'est le prophète qui parle de la part de Dieu. Donc c'est Dieu qui dit « mon peuple meurt par manque de connaissance », vous voyez. Ce n'est pas le prophète qui se lamente et qui dit « oh, mon peuple israélien et tout ça meurt par connaissance ». Non, il parle de la part de Dieu. Donc si Dieu peut dire « mon peuple meurt par manque de connaissance », ça veut dire que ce n'est pas lui qui est l'auteur de ça. On est d'accord? Il pointe la responsabilité sur l'être humain. Vous suivez jusqu'ici? Beaucoup de choses qu'on attribue comme étant Dieu vient en réalité de l'être humain. C'est l'être humain qui est la cause de la destruction, dans la plupart des cas. Vous savez ça? Il y a des comportements destructifs vers autrui. Les gens manipulent, détruisent autrui. Il y a des comportements autodestructeurs où les gens se détruisent eux-mêmes. Dieu n'a jamais prévu que l'être humain se détruise, vous saviez ça? Dieu a un plan pour les êtres humains, pour tous les humains. Dieu a un plan pour tous les humains. Et Dieu s'attend à ce qu'on découvre ce plan et qu'on le mette en pratique. C'est pour ça qu'il a dit « mon peuple meurt parce qu'il n'a pas la connaissance ». Mon peuple meurt parce qu'il manque de connaissance. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Vous vous rendez compte que ce que Dieu veut n'arrive pas automatiquement. N'est-ce pas? Ce que Dieu veut n'arrive pas par magie. Juste parce que Dieu est tout-puissant ne veut pas dire que ce qu'il veut va arriver. Laissez-moi vous montrer un exemple. Levez pas la main, mais juste pour vous faire réfléchir. Combien d'entre vous voulez que la faim disparaisse du monde? Qu'il n'y ait plus personne qui ait faim? Toute personne raisonnable trouverait ça bien, on est d'accord. Pourtant, combien d'entre nous avons donné récemment à des organisations légitimes qui aident avec la faim dans le monde. On aurait pourtant la puissance de le faire. Tout le monde en Suisse peut donner 10 francs par an à des organisations comme ça. Tout le monde. Il n'y a personne en Suisse qui ne peut pas sortir 10 francs par an. Vous voyez? Maintenant, une autre chose. Combien d'entre nous voudraient qu'on n'ait plus de clochards dans la rue? Ok, de SDF. De SDF dans la rue. Tout le monde, logiquement, dirait « des SDF dans la rue, c'est pas top ». Et combien de nous allons construire les abris pour SDF? Donc vous voyez, il faut comprendre quelque chose avec Dieu. C'est que Dieu, le fait qu'il ait la puissance de faire quelque chose ne veut pas dire qu'il va le forcer aux gens. Vous voyez, Dieu veut notre santé, Dieu veut notre prospérité par exemple, mais ce n'est pas un automatisme magique. Juste parce qu'il le veut, pouf, ça arrive. Vous voyez un peu l'idée? Au contraire, comme on l'a vu, le peuple de Dieu peut mourir à cause d'un manque de connaissance. Donc moi je voulais qu'on apporte un petit peu une connaissance sur un sujet très important. Parce que Dieu veut que vous soyez financièrement puissant. Amen. Dieu veut que vous soyez financièrement fort. Dieu veut que vous soyez financièrement construit. Et j'aimerais qu'on explore quelques passages des Écritures à ce sujet. Alors prenez vos Bibles, on va voir ce que la Bible dit. Parce que je sais qu'on a cette idée que, vous voyez que le chrétien doit être pauvre pour plaire au Seigneur. Vous savez qu'il y a des gens qui pensent ça, hein? Il y a même des gens qui font le vœu de pauvreté. Donc ils disent, je vais être pauvre pour honorer Dieu. Mais quand on va dans la Bible et qu'on regarde vraiment ce que la Bible a à dire, on se rend compte que la pauvreté déshonore Dieu. Dieu n'a jamais prévu que les gens manquent. D'ailleurs, la Bible dit que la terre est remplie de la bonté de Dieu. Tout est la bonté de Dieu. Les gens ne sont pas censés manquer. Vous saviez ça? Les gens ne sont pas censés manquer. J'avais vu un chiffre qui m'a fait assez rire. Le nombre de dollars qui sont en circulation dans le monde. Donc vraiment de dollars en circulation. Il faudrait que je me remémore exactement. Mais si on prenait l'ensemble du nombre de dollars en circulation et qu'on le divisait également par tous les habitants de l'Occident, c'est-à-dire l'Europe, l'Amérique du Nord et Australie, tout le monde serait multimillionnaire. Tout le monde. Vous vous rendez compte? Il y a bien assez d'argent dans ce monde. Et le problème, c'est que certains groupes élitistes, encore aujourd'hui, ne veulent pas que l'ensemble de la population vive dans l'abondance. Vous vous rappelez dans les années, ceux qui ont étudié un peu les années 40, après-guerre, pardon, 48, 50, 60, quand il y a eu un boom économique, qu'un ouvrier qui bossait dans une usine avait assez d'argent pour avoir une maison, deux voitures et madame qui reste à la maison pour s'occuper des enfants. Un ouvrier, lambda, avait assez d'argent pour ça. Comment ça se fait que soudainement, il n'y a plus d'argent? Dieu veut que vous prospériez. Vous êtes là ou vous m'avez perdu? Ok, vous êtes là, parfait. Dieu veut qu'on prospère. Mais le problème, c'est que tant qu'on ne sait pas qu'il veut qu'on prospère, on ne va pas se connecter à Dieu pour vivre dans cette prospérité. Donc prenons quelques versets bibliques, ok? Vous êtes prêts? Prenons Proverbe. Chapitre 10 et verset 22. Je vais prendre la version Darby. La Bible dit « La bénédiction de l'Éternel, donc l'Éternel ça veut dire Dieu, est ce qui enrichit, et il, donc Dieu, n'y ajoute aucune peine. » Prenons la version NBS, qui est un français un peu plus courant. Alors quand on parle de version de la Bible, on devrait plus dire traduction, hein, juste que ce soit clair. Parce que la Bible a été écrite dans des langues originales et elle n'a pas changé depuis des millénaires. C'est juste que nous, quand on traduit, on a des manières de traduire en français courant, en français ancien, en français contextuel. Donc voilà, juste que vous sachiez que la Bible n'a pas dix versions différentes. Elle n'en a qu'une seule, mais nous, en français, on l'a traduite de plusieurs manières. D'accord? Vous avez trouvé Proverbe 10, 22 en version NBS, la Bible dit « C'est la bénédiction du Seigneur qui rend riche et il n'y ajoute aucune peine. » Le terme « riche » ici sous-entend des richesses matérielles et spirituelles. D'accord ? Deutéronome, chapitre 8 et verset 18. NBS. 8 et 18. La Bible dit « Tu te souviendras du Seigneur ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour acquérir ses richesses, afin d'établir son alliance, celle qu'il a jurée à tes pères. Voilà pourquoi il en est ainsi en ce jour. » Et donc la Bible dit que c'est Dieu qui nous donne de la puissance pour acquérir des richesses. Le chrétien, l'enfant de Dieu, n'est pas censé marcher dans le manque. Dieu n'a jamais prévu qu'un de ses enfants, ou qu'aucun humain d'ailleurs, soit dit en passant, hein, que Dieu n'a jamais prévu que les humains vivent dans un quelconque manque. Le chrétien est censé abonder dans les finances, il est censé être riche, on l'a vu. Hein. La Bible dit, c'est là, qu'est-ce qu'il dit? On va juste relire exactement. Tu te souviendras du Seigneur, ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour acquérir ses richesses. Et après, il explique pourquoi, pour qu'on puisse manifester l'amour de Dieu sur terre, son alliance avec les hommes. Vous voyez? Donc Dieu a prévu qu'on l'utilise pour autre chose. Mais on va le voir encore. Vous êtes toujours là. Psaume 112, verset 3. Vous voyez, le problème, c'est que si on a cette image d'un Dieu qui nous veut pauvre ou un Dieu qui n'aime pas la richesse, comment est-ce qu'on va agir pour plaire à Dieu si on pense que c'est ce qu'il veut? On ne va pas marcher dans la richesse. Vous voyez? On ne va pas chercher à marcher dans la prospérité. Alors que Dieu veut qu'on soit prospère. C'est tellement évident qu'on lit les Écritures. Regardez, vous avez trouvé Psaume? Psaume 112, 3. Vous savez quoi? On va prendre Psaume 112 à partir du verset 1. Il dit « Louez le Seigneur Yahweh. Heureux l'homme qui craint le Seigneur, qui trouve un grand plaisir dans ses commandements. Sa descendance sera vaillante dans le pays. La génération, des gens droits sera bénie. Écoutez, l'homme qui craint le Seigneur, il a dans sa maison des biens et des richesses, et sa justice subsiste à jamais. Vous voyez, il y a des gens qui vont vous dire, mais non, quand ils parlent de richesse, ils parlent de richesse spirituelle, vous voyez, genre, on est des gens généreux, on est des gens pleins d'amour. Et c'est vrai, il y a une partie vraie là-dedans. Mais là, il est clair, regardez, il dit, il a dans sa maison des biens, donc là, il parle de choses matérielles, et des richesses. Dans sa maison, pas dans son âme ou son cœur, dans sa maison. Dieu veut que vous ayez dans votre maison des richesses et des biens. Vous suivez ? Allez, encore quelques petits versets, puis on a fini. Hein. Vous savez, normalement, le mercredi soir, ça ne dure qu'une heure. Donc j'essaie d'accélérer au maximum. Proverbe 3, versets 9 à 10. Proverbe 3, versets 9 à 10. La Bible dit « Honore le Seigneur avec tes biens et avec les prémices de toutes tes récoltes. Alors tes granges seront remplies d'abondance et tes cuves déborderont de vin. » Regardez ça. Donc la Bible dit que Dieu, et là il n'y a pas d'argumentation parce qu'il parlait à des fermiers à l'époque. Il a dit « Vos granges déborderont, vos cuves déborderont, vous aurez tellement que vous saurez plus où le mettre. » Donc vous devez comprendre que Dieu fait tout avec raison. Dieu n'est pas un personnage ou une personne hasardeuse. Vous voyez un peu l'idée ? Il ne fait pas des trucs juste pour rire. Il ne s'amuse pas à juste tacler quelqu'un. Vous voyez, ça, c'est une idée qu'on a de Dieu, un peu comme si d'un coup, il va vous piquer vous et vous allez avoir une mauvaise journée. Dieu a... J'ai pas envie de dire qu'il n'a pas le temps, mais Dieu ne s'amuse pas à ça. C'est Dieu. Donc, s'il vous donne des richesses, il a une raison derrière la tête. Il pense à quelque chose. Vous voyez un peu l'idée ? Il ne fait pas juste vous donner des richesses pour que vous ayez des richesses et une belle voiture et que vous puissiez ensuite vivre dans l'excès, de loin pas. Pourquoi est-ce que Dieu veut qu'on ait des richesses ? Je vais vous montrer dans les Écritures. Vous êtes toujours là. Regardez ça. Vous allez voir. Prenez Genèse 12 et verset 2. Et vous devez comprendre que Dieu veut que ces choses-là pour vous. Sinon, vous allez marcher à côté. Vous allez passer à côté de ce que Dieu a pour vous. Et Dieu ne veut pas qu'un enfant, qu'un de ses enfants, ou qu'un être humain vive dans le manque. Dieu n'a jamais prévu le manque pour personne. Dieu n'a jamais créé une personne pour être dans le manque. Vous comprenez ? Il y a des gens qui disent « Dieu m'a créé et je vais vivre ma vie tranquille ». Non, Dieu vous a créé pour une raison spécifique. Et au niveau des finances, Dieu vous a créé pour être prospère. Regardez ce que la Bible dit dans Genèse 12, 2. « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. » Donc Dieu a prévu que vous soyez dans une bénédiction abondante dans tous les domaines pour qu'ensuite vous puissiez construire autrui avec. Regardez, c'est un peu le problème de certains messages de prospérité qu'on entend parfois, surtout venant d'Amérique. Ils vont dire « Dieu veut que vous soyez riche ». Et c'est vrai, la Bible dit, on l'a vu, hein, n'est-ce pas ? Dieu veut qu'on soit riche, c'est un fait. Mais derrière, ils vont dire « riche pour que vous puissiez avoir 5 voitures, 10 maisons, des choses inutiles, vous comprenez ?» Alors Dieu n'a aucun problème avec la voiture que vous conduisez. Vous pouvez conduire une voiture à 500 000 si vous voulez. Ce n'est pas un problème pour Dieu. La question c'est, est-ce que cette voiture vous possède ? Est-ce que cette voiture a pris contrôle de votre intelligence, de votre réflexion ? Est-ce que si vous perdez cette... Est-ce que Dieu, si demain Dieu vous dit « donne cette voiture à quelqu'un », est-ce que vous le faites ? C'est ça la question. Dieu n'a aucun problème. Jésus avait, on a étudié ensemble, rappelle-toi, Jésus avait un manteau qui valait beaucoup. Jésus-Christ avait un manteau sur lui qui valait extrêmement cher. Mais au moment où ils l'ont dérobé, il n'est pas allé le rechercher. C'était rien pour lui. Vous voyez ? Donc, Dieu veut qu'on soit prospère. Mais le problème, c'est qu'on ne doit pas comprendre le fait qu'il veut qu'on soit riche comme étant une approbation pour vivre dans l'excès. Vous comprenez ? On ne doit pas vivre dans l'excès pour autant. Dieu veut qu'on soit riche pour bénir autrui, pour construire autrui. Vous voyez ? Donc, il n'y a aucun problème parce que vous avez des belles choses. Dieu veut qu'on ait des belles choses. Jésus-Christ lui-même, la Bible nous dit qu'au ciel, il y a des choses merveilleuses, il y a des statues, il y a des fontaines, des choses en or et tout ça. Donc, Dieu n'a aucun problème avec la beauté, vous voyez, et la prospérité matérielle. C'est juste qu'elle ne doit pas nous posséder, nous, vous comprenez ? Et c'est là ça l'erreur de beaucoup. En général, les croyants vont se diviser en deux. Ceux qui disent « Dieu veut qu'on soit pauvre », vous voyez, la richesse ne vient pas de Dieu. Et de l'autre côté, ceux qui vont dire, Dieu veut qu'on soit riche et je vais avoir un jet privé, oh, je vais avoir des... Non, il y a un entre-deux saint qui dit, Dieu veut qu'on soit riche, mais ce n'est pas pour moi, c'est pour construire autrui. Dieu veut que je sois riche, très, 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 très riche, mais c'est pour gérer les finances et aider autrui, construire autrui, aider les autres à se construire. Il l'a dit, hein, je te bénirai et tu seras une bénédiction. Est-ce que vous pensez qu'on peut être une bénédiction pour Dieu? Qu'est-ce qu'on peut donner à Dieu qu'il n'a pas déjà? Est-ce qu'on peut être une bénédiction pour Dieu financièrement? Non, on ne peut pas. Qu'est-ce que vous voulez donner à Dieu? Il possède l'univers. Donc ça montre que quand il dit « tu seras une bénédiction », ça ne parlait pas de « pour lui ». Ça parlait de « pour les autres ». Regardez, Dieu nous aime. Au moment où on vient au Seigneur Jésus, on croit au Seigneur Jésus. Vous voyez? Pourquoi est-ce que Dieu ne nous prend pas juste au ciel d'un coup? Genre, « ah Seigneur, oui, je crois en toi. » Pouf, on va au ciel d'un coup. Pourquoi il ne fait pas ça, Dieu? Pourquoi il nous laisse sur terre? C'est une vraie question, ça. C'est pour qu'on puisse construire autrui, gagner des gens pour Dieu. C'est pour qu'on puisse aider autrui, vous voyez? Parce que vous, peut-être, vous croyez en Jésus, pouf, vous êtes enlevé vers le Seigneur. Imaginez, c'était comme ça. Et derrière, votre maman, elle est là, punaise, il est où Antoine? Il a disparu. Vous voyez un peu l'idée? Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu a prévu que vous soyez abondamment riches de toutes choses. 3 Jean, chapitre 1, verset 2. Prenez cette écriture. Vous allez voir et comprendre ce que Dieu a prévu. Mais le problème, c'est que, vous savez ça, à mon avis, vous savez que la Bible dit il y a un Dieu, mais il y a un diable aussi. Hein. On va rappeler, quelle est l'œuvre du diable, numéro 1? C'est de détruire, c'est de retirer le crédit de la parole de Dieu, de faire que les gens n'y croient pas. Ça, c'est un truc, j'en parlais un peu avec Sacha. Vous savez, de tout point, vous regardez, depuis le point philosophique, historique, mathématique, même scientifique, logique, sociétal, de tous les points, vous regardez la Bible, elle fait du sens. Dans tous les points, il n'y a aucun point où la Bible ne fait pas sens. Et on peut exposer ces points des fois aux gens, et les gens vont dire, ouais, mais je suis quand même pas d'accord. Et quand on leur demande pourquoi, il n'y a pas de raison logique qui sort. Vous voyez un petit peu l'idée? Les gens ne vont pas vous dire, oui, alors je suis contre factuellement pour A, B, C. Et c'est quelque chose, j'en parlais avec Sacha, parce que c'est quelque chose qui peut détruire quelqu'un, ça. Dieu veut le salut des gens. Dieu veut qu'ils viennent à lui. Mais comment est-ce qu'on peut leur aider à comprendre qui est Dieu? C'est une vraie question, ça. La Bible dit en manifestant les bontés de Dieu. Donc, c'est-à-dire que dans votre vie, vous êtes la manifestation de Christ. Vous manifestez l'amour de Dieu aux autres. Vous manifestez la compassion de Dieu aux autres. Et les gens vont commencer à comprendre qui est Dieu grâce à vous. Qu'est-ce qu'on a trouvé dans 3 Jean chapitre 1 et verset 2? Bien-aimé, je veux que tu prospères à tous égards. Il n'y a aucun égard où l'enfant de Dieu n'est pas censé prospérer. Vous êtes censé prospérer dans vos finances. Vous êtes censé prospérer dans votre intelligence. Vous êtes censé prospérer dans vos skills. Et je vais même le dire, vous êtes censé prospérer physiquement. Votre fitness. Non, je n'entends pas faire de la compète pour tout le monde. Hein, mais dans le sens, vous êtes censé prospérer dans ces aspects-là aussi. Vous saviez ça? Les gens qui font du fit ici. Ouais. Mais c'est vrai, vous êtes censé prospérer dans tous les domaines de votre vie. Vous êtes censé prospérer dans votre travail. Vous êtes censé prospérer dans votre relation avec les autres. Vous êtes censé prospérer dans tous les domaines. C'est ce que Dieu dit. Il a dit quoi? À tous égards, et ensuite il précise, et sois en bonne santé. Ça veut dire que Dieu s'attend à ce qu'on soit en bonne santé. Vous savez, c'est dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. C'est une manière polie de le dire. Si on va regarder dans le grec, la version originale, c'est un ordre qu'il donne. C'est comme, vous vous rappelez qu'on était gamin en colonie de vacances, prière de débarrasser, des trucs comme ça. Ok, c'est joliment formulé, mais derrière, si vous ne faisiez pas, qu'est-ce qui se passait? La prof venait et clac. Ah Antoine, t'as pas voulu débarrasser. Bon, tu vas passer la panneuse. C'était comme ça, non? Oui, c'était tout joli, prière de débarrasser. Peut-être que vous n'avez pas eu ça dans vos colos. Moi, j'ai eu ça. On avait une colo chrétienne quand j'étais gamin. Ils nous punissaient, vous savez, c'était la punition. Parce qu'il faut savoir un truc, les parents chrétiens évangéliques, en général, ils ont une petite technique pour passer des vacances tranquilles, c'est de mettre les gamins, les mouflets, dans un camp chrétien évangélique. Et en fait, le camp chrétien évangélique moyen, c'est en fait, il y en a deux types. Il y a celui qui est genre cinglé et l'autre qui est génial. C'est vraiment, il n'y a pas d'entre-deux, c'est bizarre. Par exemple, quand j'étais gamin, j'allais au camp qui s'appelait de la Ligue pour la lecture de la Bible, c'était génialissime. Mais genre, quand je vous dis génial, J'avais hâte, je ne pouvais pas attendre d'aller. Vous voyez un peu l'idée? On avait même eu un joueur de l'équipe de foot de Suisse qui était venu. On avait fait un peu de foot avec lui. Et du coup, on avait ces camps chrétiens qui étaient géniaux. Mais l'autre camp, j'étais allé, c'était en Savoie. Et en fait, il y avait eu des melons qui avaient été distribués en entrée. Et j'avais bouffé mon melon. Et genre, le gars, il a fait: oh, t'es puni, tu vas devoir prier devant tout le monde. Je suis là: oh non, oh, je vais devoir prier, quelle horreur. Et en fait, dans ma tête, ça a créé l'idée que prier, c'est une punition, vous voyez. Et heureusement que j'ai changé ma manière de penser. Maintenant, prier, c'est un truc que j'aime faire. Amen. Mais qu'est-ce que je disais? Pourquoi je suis allé là-dessus? Ah oui, Dieu veut qu'on prospère à tous égards. Vous voyez? C'est vrai qu'on a fait un petit peu des allers-retours, excusez-moi. Si vous saviez les trucs de camp chrétien que j'ai pu vivre, le camp chrétien génial, vous savez ce que c'était à Venn. Vous savez, Venn, là, il y avait des espèces d'installations. Hein? Oui, en haut de Lausanne. Vous savez ce qu'on avait fait? Ils étaient venus nous réveiller la nuit. On avait fait un jeu de piste la nuit, dans les bois de Venn. C'était trop bien. Bah, c'est un peu en pente dans ces endroits. Je sais pas, vous voyez un peu vers le haut, là, de Lausanne, les petites pentes et tout ça? C'était là. Qu'est-ce qu'on a rigolé? C'était vraiment un camp chrétien génial. Merci les parents. Bref. C'est que c'est formulé gentiment, mais c'est un ordre. C'est un ordre. Dieu dit: sois en bonne santé, prospère à tous égards. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui le facteur, vous comprenez? Dieu n'est pas le facteur déterminant. Ce n'est pas Dieu qui va switcher la bénédiction. Ce n'est pas Dieu qui va dire: ok, nice, maintenant tu peux être béni. Non, c'est nous le facteur déterminant. C'est nous qui décidons si oui ou non on marche dans ce que Dieu a pour nous, pour ce que Dieu a pour nous dans les finances, pour ce que Dieu a pour nous dans la santé, pour ce que Dieu a pour nous pour notre famille. Vous vous rendez compte qu'un vrai homme... D'ailleurs, bientôt, je vais annoncer ça. Hein. Bientôt, la date va être sortie. La convention pour les hommes. Et on va apprendre aux jeunes de cette génération que être un homme ne consiste pas à avoir des grosses voitures et aller en boîte tous les week-ends. Vous vous rendez compte, une fois on passait, vous voyez qui c'est Angelica, n'est-ce pas? Une fois on passait avec elle au Flon. J'ai vu ces gens gaspiller leur vie, perdre leur temps. Mais quelle horreur, ça m'a fait mal au cœur, quelle tristesse. Des gens qui avaient un potentiel, tout le monde a du potentiel, sincèrement. Et les gens pouvaient les prendre, c'est des rien du tout, et vous les construisez avec la parole de Dieu, et ils deviennent des victorieux, des gens puissants et forts. Donc Dieu veut que vous prospériez à tous égards. Donc Dieu a prévu que votre prospérité soit continuelle et permanente. De gloire en gloire, de prospérité en prospérité, de foi. Vous voyez, tous les aspects de votre vie sont censés se construire. Tous les aspects de votre vie sont censés se construire constamment. Dieu a prévu ça. D'ailleurs, c'est une règle qu'on trouve dans la nature, si vous regardez. Qu'on plante quelque chose, il y en a 30. Vous en prenez un, vous le replantez 30. Vous plantez une graine. Combien de pommes sont dans une graine de pomme, si on réfléchit, une fois plantée et qu'elle pousse et qu'elle produit? Nous, on avait un pommier dans notre jardin. On l'a toujours. Il produisait tellement de pommes, mais tellement. Il produisait tellement de pommes qu'on avait des paniers entiers, mais des gros paniers. Je pense sincèrement qu'on pouvait en avoir, peut-être je me trompe, mais sur l'entier de la saison, une trentaine de ces paniers. Sans arrêt, il y avait ces trucs. Sans arrêt. Donc ça veut dire qu'une graine a produit tout ça, vous voyez? Même Dieu a mis ça dans la nature. On est sans... Même l'être humain se reproduit. Tout se reproduit et se multiplie, vous voyez? Donc Dieu a prévu que tous les domaines de votre vie se multiplient. Constamment. Et pendant, on va voir bien sûr aussi une convention sur les finances où on va expliquer en détail ce que Dieu s'attend. Parce que Dieu s'attend à ce qu'on fasse quelque chose avec nos finances. Dieu s'attend à ce que nos finances soient utilisées pour construire autrui. Vous voyez? Il ne s'attend pas à ce qu'on ait juste assez pour nous et au revoir. Non. Gloire à Dieu. Ok, on arrive à la fin. Le temps passe vite. Donc Natacha va venir lire la rhapsodie du jour.